Carl Kalage.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur vous êtes sur Radio Calade, l'émission Cavalcalade en direct, Radio Calade 100.9 FM. Alors, bonjour Mathieu.
Bonjour Elodie.
Bonjour Maître Guillaume.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, pour cette émission, nous allons traiter une thématique, la seconde vie sociale et écologique des objets. Alors, petite introduction sur le sujet. L'innovation et l'émergence de nouvelles technologies ont accru le processus de surconsommation. Les industriels proposent des appareils toujours plus performants, promettant un bénéfice énergétique alléchant. Nous générons plus de 500 kg de déchets ménagers par personne et par an, selon le CNIID, le Centre National d'Information Indépendant sur les Déchets. En prenant en compte les déchets professionnels, c'est-à-dire le BTP, l'industrie, l'agriculture, mais aussi les activités de soins, par exemple, on atteint 13,8 tonnes de déchets produits par an et par habitant, ce qui est plutôt énorme.
C'est énorme.
Tout à fait. Donc, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que peu à peu, la société prend conscience qu'elle doit changer ses habitudes. On est en plein dedans. Un petit peu au pied du mur, un petit peu par la force des choses, mais c'est souvent les épreuves qui font évoluer. Donc, une consommation raisonnée ainsi qu'une bonne gestion des déchets permettent en effet de préserver les ressources naturelles tout en limitant les exploitations polluantes. Pourquoi acheter un produit neuf quand on peut acheter d'occasion en excellent état ? Meubles, produits électroménagers ou vêtements, les objets de seconde main, on le vend en poupe. C'est une solution économique et écologique qui bénéficie à tous, notamment aux étudiants, aux jeunes ménages. Je crois qu'aujourd'hui, on peut tous bénéficier de cette solution, qui est la bonne solution. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ça ? On a les recycleries, les ressourceries. Les antiquaires, les ventes aux enchères sont de bons moyens de trouver des biens de biens de seconde main à bon prix. La seconde main a de nombreux aspects positifs. Créer de l'emploi, réduire l'empreinte carbone, faire des économies. Alors, pour cette émission, nous sommes avec Maître Guillaume. Maître Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Pierre-Yves Guillaumeau, je suis commissaire-priseur à Villefranche depuis de très nombreuses années. Je crois que ça fait... on va pas compter, ça serait un petit peu désagréable. Donc, à Villefranche, je suis commissaire-priseur judiciaire et j'ai une société de vente aux enchères, R.A. Enchères.
Commissaire-priseur, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un commissaire-priseur ?
Ah, un commissaire-priseur, c'est un monsieur qui organise, prépare et des ventes aux enchères de biens d'occasion et parfois d'objets neufs aussi, également.
Est-ce que si demain je veux devenir commissaire-priseur, je peux ouvrir, je sais pas, mon entreprise de vente aux enchères ?
Alors, non. Et pour cela, il faut avoir le diplôme de commissaire-priseur qui est de plus en plus difficile. Et ensuite, il convient de se faire agréer par... De créer une société et d'être agréé par le conseil des ventes aux enchères qui vous donne l'autorisation moyennant différents critères d'ouvrir une salle des ventes.
D'accord. Et c'est des... Pour passer ce diplôme, c'est des études juridiques je ne sais pas du tout comment ça va...
Alors, il y a deux volets. Il y a un volet juridique, effectivement, puisque, comme je l'ai dit, moi, je suis commissaire-priseur judiciaire, je suis nommé par le ministère de la Justice. Mais il y a aussi un volet artistique important pour tous les objets d'art, puisqu'on l'organise, on fait des expertises d'objets ouais. Pour donner l'authenticité de l'époque et valoriser leur valeur.
Ouais, pour pas qu'il y ait une vente qui se fasse... beaucoup en dessous du prix de la valeur d'un objet, c'est ça, j'imagine ?
D'une part, c'est surtout pour protéger... Nous, on est là pour protéger le vendeur, hein, d'une part, pour lui assurer que son bien sera vendu au plus juste prix. et protéger l'acheteur aussi, que lui va acheter le un objet qui, avec les caractéristiques que l'on aura garanties. Et c'est un système qui est à l'origine typiquement français et qui ensuite a fait tache d'huile au niveau européen et mondial comme référence.
Alors ça, c'est intéressant. La naissance du système de vente aux enchères, c'est français.
Alors, les commissaires-priseurs ont été créés par un décret de Henri II, ça fait très 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 longtemps.
Wow.
Et les commissaires-priseurs ont été supprimés parce que différent. La dernière fois qu'ils ont été supprimés, c'est au moment de la Révolution, sous la Révolution française, puisqu'on était une profession organisée. Et donc, ça a été la Révolution française a tout supprimé, mais les ventes ont été tellement chaotiques par la suite que Napoléon a recréé dans le Code civil une organisation judiciaire autour des commissaires-priseurs. Et pendant longtemps, les ventes aux enchères en Europe et dans le monde étaient la référence de l'organisation des ventes, et toutes les grandes maisons de vente anglaises et anglo-saxonnes d'une manière générale ont une déontologie qui est calquée sur notre système de vente créé par Napoléon.
Cocorico, on a de quoi être fier.
Absolument.
Mais comment fonctionne une vente aux enchères pour nos auditeurs qui ne pourraient pas connaître le fonctionnement, le système?
Alors déjà, l'indication est dans le nom. Ce sont des ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire qui ne sont pas réservées à certaines personnes, mais n'importe qui peut assister et participer à une vente aux enchères dès lors qu'il est majeur, qu'il ou elle est majeur.
D'accord.
Il faut être majeur pour pouvoir participer. Ensuite, comment ça se présente? Il y a trois types principalement de ventes maintenant aux enchères. Il y a les ventes qu'on appelle physiques, où le commissaire-priseur dans tous les anime une vente et les objets sont exposés. Les personnes peuvent venir voir les objets avant la vente, assister à la vente dans la salle, et lorsqu'elles souhaitent acquérir un objet, elles vont enchérir en manifestant par un cri, par un éclat de voix, par un geste ou un clignement d'œil, peu importe, vis-à-vis du commissaire-priseur qui va enregistrer cette enchère. Et celui qui a rapporté la dernière enchère, sans surenchère, à ce moment-là, moyennant le coup de marteau et le terme et le mot adjugé, sera acheteur de cet objet. Il y a un autre système qui s'est développé depuis quelques années, c'est les systèmes de vente live. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, sauf que les internautes peuvent suivre la vente en même temps et enchérir depuis chez eux, depuis leur ordinateur, et participer à cette vente, en enchérissant, en cliquant. Et il y a un troisième volet, que sont les ventes totalement dématérialisées, où là, il n'y a plus de salle, la salle est virtuelle, c'est l'ordinateur, et là, on peut, selon le même système, le même processus, enchérir et participer à la vente en cliquant et en enchérissant directement. Et lorsque plus personne n'enchérit, le dernier est adjudicataire, c'est-à-dire acheteur de l'objet. Ne pas oublier une chose, c'est que au prix d'adjudication, à l'adjudication, il faut rajouter des frais de vente. C'est un pourcentage du montant de la vente qui diffère, qui peut varier selon les maisons de vente, mais bien se renseigner, se vérifier et ne pas oublier ce montant.
D'accord.
Ah oui, il y a un pourcentage sur le prix qui est annoncé au moment de la vente qui est rajouté
au montant au prix d'adjudication. D'accord. Tout à fait.
Et alors moi j'ai vu des enchères que dans des films. Et une question toute bête, mais dans les films, on voit des gens lever une pancarte et le commissaire-priseur, il dit le prix, il rajoute un prix.
Voilà.
Comment ça marche? Comment on sait de combien en combien on monte dans une enchère?
Oui. Enfin, alors, c'est ce qu'on appelle le pas d'enchère, c'est-à-dire que ça dépend du montant de l'enchère, à quel niveau de prix on se situe. Si on est à quelques dizaines d'euros, on va monter de 5 ou 10 euros. Si on est à quelques milliers d'euros, ça pourrait être plusieurs centaines d'euros de pas d'enchère. Et du coup, le commissaire-priseur, effectivement, lorsqu'un acheteur une personne se manifeste dans la salle pour enchérir, dit vous enchérissez de temps. Si, mettons, on est à 1000, ça va être 1050 ou 1100, puis 1200, 1300, etc. etc. Mmh. Et voilà, mais c'est nous qui décidons. Mais c'est communément, les pas d'enchères sont généralement les mêmes chez tous les commissaires-priseurs.
D'accord.
Il n'y a pas de règle fixe, mais voilà.
Ok. Et je suis désolé, je m'éloigne un peu du sujet, mais dans les films, il y a toujours le coup de théâtre de la personne qui double la somme d'un coup pour gagner l'enchère. Ça, oui. Ça existe, ça, ou pas?
Ça existe, effectivement. Okay. Ça se produit, ça peut arriver. Il n'y a pas de même que les pas d'enchères peuvent varier, effectivement, lorsque on commence à, mettons, je dis n'importe quoi, à 500 euros et qu'on a une forêt de bras qui se lève. Ça ne sert à rien de monter de 20 euros, autant monter de 100, 200, 200. On s'adapte, en fait, à la réaction du public. Donc c'est pas, il y a pas de règle particulière. Et j'ai eu des enchères où c'était des montants qui étaient relativement élevés, où on est passé, enfin il y a une enchère en l'occurrence, je me souviens, où on est passé de 200 000 à 400 000 euros en 6 enchères en gros. Wow. Donc c'était les enchères étaient entre 20 et 30 000 euros à chaque fois. Mais c'était un petit peu un cas exceptionnel parce que il y avait de l'engouement, je sentais qu'il y avait de l'engouement et que les gens ils voulaient puis pouf, et donc ça sert à rien d'attendre quoi. C'est,
ouais.
Après si la personne m'avait dit non, je veux pas, à ce moment-là on peut revenir. Mais disons voilà, on dirige la vente et à partir de là, on doit entretenir une certaine fébrilité en quelque sorte,
ouais,
pour les vis-à-vis du public.
Bon,
on est des acteurs.
Très bien.
Des animateurs.
Quel est l'intérêt pour vos vendeurs de passer par une salle des ventes, par votre salle des ventes?
Alors, moi, je suis un petit peu particulier puisque R1 Enchères, nous vendons. Essentiellement des produits, des objets qui sont issus de retours du e-commerce ou de distributeurs, ce qui par conséquent soit un défaut d'aspect plus ou moins important, voire même parfois il y en a qui ne fonctionnent pas, ou qui peuvent aussi être des invendus, il y a des fins de série, et donc qui eux en revanche sont tout neufs. Et pour les vendeurs, alors on indique à chaque fois aux acheteurs l'état dans lequel se trouve le produit. On essaie d'être le plus précis possible.
Je crois que parfois un simple défaut sur une palette, un carton un petit peu abîmé ou une palette mal faite. Parfois, c'est l'emballage, hein, le produit en
tout
lui-même.
Tout à fait. Parfois, ça peut être le défaut, c'est soit l'emballage parce que effectivement, il y a eu un peu d'eau sur le carton, donc du coup, le distributeur ne peut plus vendre le produit classiquement, et plutôt que d'attendre à ce moment-là, il me demande ce qui soit vendu. Mais le produit à l'intérieur est totalement intact et exempt de tout défaut. Parfois, ça peut être parce que l'objet a eu un choc et du coup, c'est plus important, ou il peut manquer des accessoires, ou etc. Mais on le signale à chaque fois pour que les acheteurs puissent acheter en toute connaissance de cause.
Et donc, l'intérêt écologique et économique pour vos vendeurs?
Alors, je termine de répondre à la question que vous m'avez posée. Pour mes vendeurs, l'intérêt, c'est que je leur permets de valoriser au maximum les produits qu'eux-mêmes ne savent plus valoriser puisque c'est plus dans leur système classique, et de les valoriser et pour eux et pour les acheteurs parce qu'ils peuvent les acheter directement, quasiment sans intermédiaire.
Donc la question sur justement pour les vendeurs, passer par le système de vente aux enchères, le côté écologique, le côté économique, pour le vendeur, quel est son intérêt?
L'intérêt pour ça leur permet de donner une seconde vie, maintenant c'est la grande théorie, de se donner une seconde vie à l'objet, donc d'éviter soit la destruction de l'objet, soit de le mettre au rebut, qui dorme dans un coin, qui ne serve à rien. Donc ça permet de valoriser l'objet, même si très souvent, ils perdent de l'argent dessus, mais ça minimise leur perte, disons-le. Et ça leur évite d'occuper de la place inutilement, de la surface et du mètre carré qui coûte cher.
Oui.
Donc, il y a un aspect économique pour eux qui est indéniable.
Oui.
Et puis, ça leur permet de défendre une image un petit peu vertueuse, dans la mesure où ces objets nous, qui ne peuvent pas eux-mêmes recommercialiser, nous, on leur permet de le faire.
Une démarche qui va dans le sens de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui avait interdit que les produits non alimentaires soient détruits lorsqu'ils sont invendus. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Désormais, importateurs, producteurs, distributeurs ne peuvent plus détruire les invendus non alimentaires.
Absolument.
Donc ça inclut les produits électriques, électroniques, les textiles, les meubles, les cartouches d'encre, mais aussi les produits d'hygiène et de puériculture comme le dentifrice, le savon, le déodorant. Vous le saviez ?
Non, alors là je n'avais aucune idée.
On trouve de tout.
Alors, puisque c'est une loi, il y a des sanctions. Il s'agit d'une amende administrative qui peut aller jusqu'à 3000 euros si c'est une entreprise physique, une personne physique, et jusqu'à 15 000 euros s'il s'agit d'une société. Maintenant, je voudrais aussi revenir et du coup poser la question aussi, l'aspect écologique et social pour l'acheteur. Le fait de passer par une salle des ventes, l'aspect écologique. Sur les transports, peut-être ?
Alors, effectivement, dans la mesure où nous, on ne fait pas d'expédition, on minimise au maximum les expéditions, on a une vocation, nous, sur Villefranche, d'avoir une clientèle le plus locale possible pour éviter d'avoir à expédier à l'autre bout, de l'autre bout de la France, ou je ne sais que sais-je, un objet qui aura déjà voyagé, qui aura, oui. etc. Donc, on minimise l'impact carbone, si je veux dire, je ne sais pas si ça existe pour un objet.
L'empreinte carbone
de l'objet. Et pour les acheteurs, oui. C'est de participer justement à cette démarche, d'une part. Et puis, il y a un autre aspect que vous avez soulevé, c'est l'aspect social. C'est-à-dire que ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un objet neuf oui. ou indemne de tout défaut, d'acquérir quand même, moyennant un petit poc à droite à gauche, un objet qui remplira exactement les mêmes fonctions. Un choc sur la façade d'un réfrigérateur, par exemple, peut être peut ne pas, dans la mesure où je pense que la plupart des réfrigérateurs sont couverts des dessins de nos enfants, le POC, il se voit plus beaucoup.
Et on parle de produits de première nécessité, hein, pour un ménage, la machine à laver, le frigo, c'est important. Ça a un coût, effectivement, avoir recours à des systèmes pour pouvoir s'équiper à moindre frais, c'est très intéressant.
Effectivement, oui, les prix sont particulièrement attractifs. Pour les acheteurs, et du coup, ça leur permet. Alors, je suis en train d'essayer de voir avec les organismes sociaux pour créer une passerelle en quelque sorte pour permettre aux personnes qui seraient bénéficiaires d'allocations d'équipement pour pouvoir acheter directement dans nos ventes et s'équiper de manière beaucoup plus large avec des produits neufs ou très peu ou un petit peu abîmés. Pour chez eux et en bénéficier de manière beaucoup plus large.
Aller un peu plus loin encore sur le terrain social et puis permettre à de plus en plus de personnes de pouvoir bénéficier de ces alternatives écologiques et sociales.
Absolument.
C'est notre ADN. Est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs ? Il me semble aussi important d'expliquer la corrélation un petit peu entre l'économie locale, le commerce local et une salle des ventes.
Alors, la finalité que j'ai n'est pas d'aller à l'encontre du commerce local, oui. bien au contraire, mais en partenariat. C'est, on fait ce que le commerce local ne peut pas faire, et du coup, pour des raisons X ou Y, même si il y a des rabais, des réductions, des soldes, etc. Et néanmoins, il y a un moment où, il reste des objets, ils ne peuvent plus être présentés par les magasins. Et du coup, on se donne la possibilité de participer. Nous, on intervient à ce moment-là. Donc, on n'intervient pas complètement on n'est pas en contradiction avec le commerce local, et ce n'est pas du tout la finalité de la renchère.
Exactement, c'est important de le dire, je pense. Est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs ?
Message, j'en aurais deux. C'est n'achetez que ce que vous voulez vraiment. N'achetez pas un produit en vous disant après, ah ben non, finalement, je n'en veux pas, etc. N'achetez que ce que vous voulez vraiment. Je m'insurge avec véhémence contre quelque chose qui est censé protéger les consommateurs, mais qui est, à mon sens, c'est une vision strictement personnelle, est une catastrophe écologique, c'est le droit de rétractation. Car on a tout le monde, on entend très souvent parler de personnes qui achètent sur le e-commerce une paire, deux paires, trois paires, quatre paires de chaussures, puis finalement, ben non, j'en garde qu'une et je renvoie les autres. C'est, à mon sens, c'est une hérésie. Et donc, et même chez nous, n'achetez que ce que vous voulez vraiment, choisissez, soyons responsables de nos achats avant et non pas après.
Et ça, du coup, vous en vendez, j'imagine, ça doit faire partie des lots que vous avez à vendre, des choses qui ont été achetées et puis finalement pas gardées.
C'est exactement ça. Ce que j'ai à vendre, ce sont ces produits-là qui n'ont pas été conservés par les personnes. Donc c'est monstrueux.
Il y a des quantités impressionnantes.
C'est impressionnant et du coup, l'idée, moi, c'était de participer justement au recyclage de ces produits, qui sont un caillou dans la chaussure de tous les e-commerçants et tous les distributeurs. Le deuxième message, c'est que si pour vous, le fait que, comme je le disais, le frigo est un petit choc à droite à gauche, mais qu'il fonctionne, vous pouvez venir, vous êtes bien les bienvenus. Cher, en cher.
On peut venir.
On est dans la même phase, dans la même philosophie.
On peut venir. Et on vient comment ? On vous trouve comment ? On contacte la salle des enchères ? Comment ?
Alors, c'est pas la peine de nous contacter. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site raenchères.com, et vous allez découvrir toutes les ventes qui sont organisées certaines en semaine et principalement aussi le week-end, le vendredi, samedi et même le dimanche soir pour les objets qui n'auront pas été vendus auparavant. Et là, tout vous sera expliqué. Mais ne vous précipitez pas. Découvrez tranquillement. Et pour n'acheter que ce que vous voulez vraiment.
Ah, c'est un très très bon conseil pour nos auditeurs. On écoute une petite musique, maître. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter ?
Alors, je vous propose d'écouter une chanson de Rodriguez, qui est un artiste américain qui a redécouvert, si j'ose dire, par l'Afrique du Sud. Et la chanson, c'est I wonder, je me demande.
That's mine. I wonder how much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder. Wonder I do. And children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder,
wonder, don't you? I wonder how many times you've been had, and I wonder how many dreams have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next?
Vous êtes de retour dans l'émission Cavale Calade sur Radio Calade 100.9 FM, toujours avec Mathieu.
Bonjour, rebonjour.
Et avec notre invité, Maître Guillaumeau, commissaire-priseur.
Rebonjour.
Donc, pour cette deuxième partie, je vais vous donner quelques informations locales. Donc, ma première information est tirée de la source Le Progrès, un article du 19 mai 2022, annonçait l'ouverture. Excusez-moi, je me suis trompée de source. C'est au Val-d'Ouin. Excusez-moi. La municipalité qui met à disposition un local communal pour l'installation d'une recyclerie qui vient d'ouvrir ses portes, puisque c'était le 15 octobre. Cette recyclerie s'appelle chez Marcel et Madeleine Recyclerie. C'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, qui veut se tourner vers l'économie circulaire, l'éco-création, avec des ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés. Les horaires d'ouverture du mercredi au samedi, de 10h à 19h. Ma deuxième information, qui est aussi très très locale et qui concerne aussi les recycleries, la source c'est Le Patriote, un article du 16 mai 2022. Alors sur l'ancien site du Savour Club de Lanciers, le projet de recyclerie porté par la CCSB est en train de naître. L'ouverture aura lieu au second semestre 2023. Voilà, mes auditeurs. Eh bien, écoutez, notre émission touche à sa fin.
On a peut-être une petite minute juste pour glisser d'autres solutions de recyclage et réutilisation. Oui. Il y a les Ripper Café, il y en
les
a un.
Les Ripper Café.
À Villefranche, chez le rendez-vous, bah, c'est justement ce samedi 29 octobre au caveau Jacques-Higelin de 14h à 18h. Mmh. Et puis, on peut citer la recyclerie de Trévoux.
Exact.
L'Oasis à Glaizé.
Tout à fait.
Le foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Villefranche. Et j'en ai pas d'autres en tête. Mais...
Et ben c'est déjà pas mal. Et puis on voit que ça émerge un petit peu de partout aussi sur le territoire rural. Donc c'est très très bien de voir que le monde rural s'active aussi et dans le bon sens. Eh bien écoutez, l'émission touche à sa fin.
Merci.
Merci Mathieu, merci Maître Guillaumeau d'avoir participé à notre émission.
Merci à vous pour votre accueil.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, on se retrouve bientôt sur Radio Calade.
La Cavale Calade.